Il est 8h.
On va avoir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
Restez chez vous et restez patient. Le recul de l'épidémie grâce au confinement demande encore du temps. Les masques et équipements médicaux qui nous arrivent de Chine par les airs pourraient-ils être made in France en mobilisant toute l'industrie? C'est le point de vue d'un urgentiste à qui nous passerons un coup de fil. 2500 marchés alimentaires vont rouvrir. Soulagement des producteurs qui ne savaient plus quoi faire de leurs fruits, légumes, charcuteries et fromages.
Si on n'était pas dans cette crise aussi dramatique que celle que l'on vit, je sauterais de joie.
Autre secteur en péril, l'aérien. Orly est mis sous cloche ce soir. Aéroport de Paris annonce sur Europe 1 un plongeon d'1 milliard d'euros de ses revenus. Nous verrons comment Air France peut être sauvée. Et puis, téléphone, tablette et ordinateur sont nos meilleurs amis en ce moment, mais précisément, les cyberattaques sont en plein boom, venues notamment de la Chine.
Le but, c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc, il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès.
Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Nous étions par exemple en Guadeloupe dans le journal de 7h. La question des territoires commence à se poser dans cette crise du coronavirus. Vous allez dialoguer avec lui à partir de 8h30. Vos questions, c'est maintenant le 3921 ou par écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Souvenez-vous, il y a 2 semaines, à cette heure-ci, nous pouvions encore, pour quelques heures, sortir de chez nous sans limite de temps et sans remplir un formulaire. Le confinement, sous peine d'amende, a vidé nos rues et cette première quatorzaine nationale n'est qu'un début.
Le nombre de morts annoncés chaque soir semblait stagner depuis jeudi dernier, mais il était hier de nouveau en nette hausse en France. 418 malades ont succombé en 24 heures. Théo Manval, les premiers effets positifs de ce confinement, on doit encore attendre pour les voir.
Eh oui, parce que nous sommes confinés depuis 14 jours, ce qui est aussi la durée maximale estimée de contagiosité du virus. Donc ça n'est qu'à partir de ce matin qu'on peut dire avec certitude que les personnes nouvellement contaminées l'ont été après la mise en œuvre du confinement. Jean-Stéphane Dersin est mathématicien, chercheur au CNRS, spécialiste en modélisation des épidémies.
Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le confinement, il a été relativement progressif, c'est-à-dire qu'on pense qu'au début, il a été moins respecté qu'il ne l'a été par la suite. Donc on va voir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
2 semaines encore, donc, à partir d'aujourd'hui. Et les épidémiologistes ne vont pas scruter que le nombre de cas officiellement détectés. Ce n'est pas l'indicateur le plus fiable, explique l'infectiologue François Bricaire.
Le nombre de cas, comme on ne sait pas combien de personnes sont effectivement porteuses de virus, c'est bien difficile de savoir de combien on va diminuer. Ce qu'on peut vraiment apprécier en termes chiffrés, c'est le nombre de morts et aussi le nombre d'admissions en réanimation.
Et pour l'instant, ces admissions augmentent encore de 7 à 15% par jour en Île-de-France. Une hausse qui ralentit un peu dans le Grand Est, mais qui continue de se poursuivre.
Les précisions de Théo Manval. Nouvelle visite de terrain pour Emmanuel Macron aujourd'hui dans une usine de masques du groupe Colmy Open dans le Maine-et-Loire. C'est le plus gros des 4 fabricants français. Le site tourne aujourd'hui 24-24 et a recruté 35 salariés en CDD. Par ailleurs, hier, 8,5 millions de masques sont arrivés dans un nouvel avion venant de Chine.
Et nous sommes en direct avec Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué national CGT. Bonjour Christophe Prudhomme.
Bonjour.
Alors quand on voit, quand on écoute le dispositif de sécurité ou encore la logistique pour importer 8,5 millions de masques depuis la Chine alors qu'on en commande 1 milliard, ça vous rassure? Vous vous dites qu'on a pris les choses en main?
Non, absolument pas. Nous sommes un certain nombre à avoir alerté depuis des années sur le fait que nous massacrions notre outil productif, que ce soit sur les matériels médicaux. Vous voyez, si on manque de respirateurs, c'est parce qu'on n'a plus d'usine, qu'on a tout vendu à l'étranger. Et que quand on vend une entreprise performante en France, eh bien, les vampires pillent les brevets et ferment l'usine en France et partent à l'étranger. C'est la même chose sur les masques, c'est la même chose sur le médicament, vous comprenez. Et nous sommes très nombreux à l'avoir dénoncé et on n'a pas été entendus. Et le retard pris à mettre l'ensemble de l'outil de production français sur les priorités, à avoir maintenu le fait que des entreprises comme Amazon continuent à livrer des ouvrages, des rasoirs ou je ne sais pas trop quoi, c'est quand même lamentable.
Vous dites que toutes les industries qui tournent aujourd'hui devraient être mobilisées, réquisitionnées pour produire ces équipements médicaux?
Bien sûr, vous comprenez. C'est quand même catastrophique.
On est capable?
Mais écoutez, on a vu que sur la base du volontariat, de très grandes entreprises comme LVMH étaient en capacité très rapidement, sans que l'État lui demande, de transformer ces chaînes de production de parfums en chaînes de production de gel hydroalcoolique. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la grande débrouille en France. On a l'impression que l'État est tétanisé, est incapable de prendre des mesures, si ce n'est que de fermer les marchés. Aujourd'hui, la question, c'est, on a des entreprises qui sont capables, on a des entreprises textiles, on a des entreprises de la chimie, qui sont capables de réorienter très rapidement leur production. Et donc, il y a des possibilités. Encore faut-il le faire suffisamment tôt, parce que là, quand même, mobiliser des avions cargo pour aller chercher des masques en Chine, et c'est quelques millions qui arrivent par jour. Vous savez qu'aujourd'hui, on manque massivement de masques pour nos collègues en ville, nos collègues libéraux, infirmiers, médecins, et dans les EHPAD. Pour chaque jour, pour ces personnels, c'est 2 millions de masques qu'il faudrait. On en amène 4 millions et demi par avion cargo. Ça veut dire qu'on tient 2 jours pour les EHPAD et pour les personnels de santé.
Merci.
C'est pas sérieux.
Merci beaucoup, docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'Europe 1.
L'Agence du médicament alerte sur une trentaine d'effets indésirables graves signalés, dont 3 décès chez des malades du coronavirus traités par du plaquenil, donc de l'hydroxychloroquine. Ce genre de traitement ne doit en aucun cas être pris en automédication, ni même sur prescription d'un médecin de ville. C'est cette agence, la NSM, qui le précise.
Un nouveau changement des règles du confinement, on vient de l'évoquer. Les marchés étaient fermés depuis une semaine. Voilà que les dérogations sont assouplies. 2500 marchés alimentaires vont pouvoir rouvrir, soit 1 marché sur 4 en France.
Un travail de fond a été fait pour avoir les meilleures pratiques sanitaires possibles, mais cette réouverture des marchés était absolument indispensable pour les producteurs agricoles, selon Monique Rubin de la Fédération nationale des marchés de France.
Si on n'était pas dans cette crise aussi dramatique que celle que l'on vit, je sauterais de joie. C'est non seulement un soulagement, c'est réellement la possibilité pour les producteurs de pouvoir écouler leur production, parce que ça, c'est quand même dramatique pour eux. Donc, on devait apporter toutes les possibilités de sécurisation pour la population et pour les commerçants. Il faut qu'il y ait un espace entre l'étal du commerçant et le consommateur d'1 mètre. Il faut que, entre chaque consommateur, il y ait un espace de 1 mètre à 1 mètre 50. On met des petits scotch par terre, on met des ficelles, on met des cagettes tous les mètres. Il faut pas se toucher. Vous savez, le marché, il existe depuis que le monde est monde, et on doit préserver impérativement nos activités. On ne veut pas mourir, et les marchés vont continuer à vivre justement en travaillant de façon très rigoureuse.
Monique Rubin, jointe par Marion Gauthier pour Europe 1. 1 milliard d'euros, c'est la baisse de chiffre d'affaires estimée par Aéroports de Paris, contraint de suspendre l'activité d'Orly à partir de ce soir. Augustin de Romanet, PDG d'ADP, invité d'Europe 1 ce matin, précise avoir lancé un plan d'économie de façon à essayer de préserver au maximum notre indépendance, dit-il, et essayer de ne pas abuser des aides publiques.
Et sur le plus long terme, selon lui, écoutez bien, l'époque où chaque week-end on va dans une ville européenne pour un voyage à 49,99€ va peut-être être un tout petit peu revisité.
De son côté, Air France KLM a réduit de près de 90% ses vols, à tel point qu'un sauvetage de la compagnie est préparé en ce moment par l'État français. Emmanuel Dutheil.
Il faut agir vite et bien, voilà ce que l'on dit au ministère de l'économie, où on affirme en coulisses être prêt à un gros effort. Pour cela, il faut trouver un accord avec l'État néerlandais, également au capital du groupe. Les négociations sont intenses et se passent bien. On a mis de côté nos divergences nées de la montée au capital sauvage des Néerlandais pour se concentrer sur l'urgence. Et l'urgence, c'est d'apporter de l'argent frais à Air France KLM tout de suite et de préparer le long terme. On travaille sur les 2 horizons, nous a-t-on confié. Concrètement, ce qui semble se préparer, ce sont des prêts garantis pour passer l'urgence. Et dans un deuxième temps, une montée au capital d'Air France KLM des 2 États. Ça apportera de l'argent frais, mais combien faut-il ? La grosse inquiétude de l'État, c'est de savoir quand la compagnie pourra redémarrer. Si les États-Unis sont bloqués pendant des mois, ça va être dur. On est face à un défi historique, note un bon connaisseur du dossier.
En politique, une journée particulière à l'Assemblée nationale. Nous sommes mardi, les questions au gouvernement se tiennent, mais avec seulement 8 députés physiquement dans l'hémicycle, 1 par groupe.
Et demain commencera une mission d'information pour contrôler les mesures du gouvernement contre la crise. Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, seront auditionnés. Les précisions de Claudia Bertram.
L'Union nationale est chaque jour un peu plus mise à mal, mais tous les partis politiques vont contrôler ensemble l'action du gouvernement. Tout le monde doit être dans la barque, glisse un proche de Richard Ferrand. Côté majorité, pas question d'en faire une mission à charge, mais ce sera bien dans une optique de contrôle où tous les aspects de la crise seront abordés, assure un cadre. L'opposition, elle, a bien l'intention de ne rien laisser passer au gouvernement. LR compte en profiter pour faire remonter les remarques très concrètes du terrain. Et la gauche fait déjà monter la pression. Il y a le risque que cette mission soit verrouillée par la majorité. Elle pourrait alors trouver ses limites, estime un dirigeant communiste qui complète. On y va sans a priori, mais si c'est du flan, on le fera savoir. Autre limite pointée par l'opposition, les prérogatives de cet outil parlementaire. Il ne donne pas assez de pouvoir pour contrôler pleinement le gouvernement, déplore-t-on au Parti Socialiste. Un élu insoumis est catégorique. Il faut qu'elle débouche très vite sur une commission d'enquête. C'est indispensable.
On parle encore ce matin d'un virus chinois, mais celui-ci est informatique. En pleine pandémie de Covid-19, des groupes de pirates s'en prennent à la France. Nous sommes le troisième pays le plus touché en ce moment, selon les informations d'Europe 1.
Il y a quelques jours seulement, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris qui était visée. Vous imaginez bien qu'ils ont autre chose à faire à la PHP. Mais d'autres attaques sont en cours, profitant des failles du télétravail pour infiltrer les entreprises. Guillaume Biais, qui sont ces hackers ?
Alors ils sont nombreux, hein. Ce sont des armées de pirates informatiques, mais les principaux sont connus, ils sont majoritairement chinois, russes et iraniens. Ils agissent aussi bien pour le compte de leur État que pour leur propre intérêt et ils ont un objectif essentiel, faire tomber notre système, explique Édouard Janson, responsable sécurité de Capgemini France.
En attaquant les infrastructures vitales, en attaquant les entreprises, en attaquant notre système d'information, le but c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès. Il faut faire extrêmement attention sur quoi on clique et sur ce qu'on utilise à son domicile. Alors c'est clair, c'est pas évident. Vous êtes en train de bosser, votre enfant vient vous demander un exercice de maths, vous repassez sur un mail perso et vous re-switchez sur un truc professionnel. Mais il faut faire très attention sur quoi on clique parce que cette déconcentration, entre guillemets, peut ouvrir des brèches qui permettent après aux pirates d'accéder au système d'information de votre entreprise et les voler ou les pirater.
Et pour cela, les hackers déploient les grands moyens. Des dizaines de milliers d'adresses internet frauduleuses et de pièces jointes vérolées circulent depuis 3 semaines avec tout un point commun, le mot « Covid » pour vous inciter à cliquer et infiltrer votre système.
Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1.
À l'échelle mondiale, on estime que 3,4 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées. C'est 44% de la population de la Terre. À New York, un navire hôpital est arrivé hier, 12 blocs opératoires et 1000 lits à son bord.
Situation très préoccupante aussi en Iran, qui fut un temps le deuxième pays le plus touché au monde. On en est à 2700 morts, mais ce bilan officiel est peut-être sous-estimé. L'épidémie progresse, les pouvoirs publics semblent dépassés, Vincent Hervouette.
Tous les pays sont contaminés, tous les gouvernements contestés, mais l'Iran est à part. C'est l'un des plus touchés et le seul en quarantaine. C'est la double peine. Le coronavirus n'a pas levé les sanctions américaines. Les Iraniens ne peuvent pas importer de médicaments. Leurs hôpitaux sont délabrés. Il y en a même qui ont cru se soigner en avalant du méthanol. Le remède a fait des centaines de morts, peut-être des milliers. D'autres ont recours aux charlatans enturbanés. Le gouvernement n'a pas osé fermer tout de suite l'épicentre de l'épidémie, la ville des pèlerins, Rome. Il n'ose pas confiner la population, l'économie est exsangue. Et du coup, les ultra-conservateurs l'accusent d'être trop lent, trop mou, trop faible. Le gouvernement, comme un réflexe, dénonce le terrorisme médical des États-Unis.
Oui, d'ailleurs, le guide suprême iranien a rejeté la main que lui tendait Donald Trump.
L'Amérique est Satan, tout est permis à ceux qui combattent l'impérialisme. Ça fait 40 ans que la République islamique répète cette rengaine, 40 ans que l'Iran prend des otages, hier les diplomates américains, ensuite les otages français au Liban, aujourd'hui Fariba Adelka, la chercheuse détenue depuis 300 jours pile. Elle, c'est la triple peine. Elle est innocente comme tous les otages, et otage parce qu'elle est française. Elle est menacée de contamination en plus d'une condamnation. Et 100 000 détenus ont été libérés pour le nouvel an et elle reste entre quatre murs. Elle garde bon moral. Son courage est une leçon pour nous tous qui nous sentons enfermés.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures d'Europe 1. Invité d'Europe 1 il y a une demi-heure, la ministre espagnole des Affaires étrangères pour qui les mesures prises dans son pays commencent à porter leurs fruits. Mais il ne faut pas baisser la garde. Arantxa Gonzalez appelle à un déblocage de budget plus important de la part de l'Union européenne.
Et nous allons terminer avec ces matériaux de la vie quotidienne qui ont des vertus très précieuses contre les virus.
Oui, c'est ce que montre la recherche de l'Agence spatiale européenne. l'ADN. Depuis 2 ans, des chercheurs en Allemagne travaillent sur des surfaces spéciales qui tuent les bactéries. Ils espèrent qu'elles puissent être aussi efficaces contre le coronavirus. Lors d'Autriche.
Ces scientifiques de Sarrebruck et de Cologne travaillent sur des matériaux du quotidien, l'argent et le cuivre que l'on retrouve sur les poignées de porte ou sur les boutons dans l'ascenseur et qui sont partout dans les lieux publics. Avec une nouvelle technologie de laser très puissant, ils ont réussi à transformer la surface du cuivre. Dès que l'on touche l'objet avec notre main, toutes les bactéries meurent immédiatement. Impossible donc de les transmettre d'une personne à une autre. Et cette technologie devrait aussi éliminer les virus, explique Matthias Maurer, astronaute de l'Agence spatiale européenne et scientifique spécialiste des matériaux.
Les premiers tests qu'on a faits, on peut prouver que c'est aussi efficace contre les virus. J'espère bien dans 1, 2, 300, peut-être il y a des premiers produits sur le marché. J'espère peut-être les boutons dans la métro ou les poignées dans les hôpitaux.
L'an prochain, des échantillons de cuivre et d'argent seront emportés dans la Station spatiale internationale pour des tests. Les astronautes confinés dans l'ISS doivent aujourd'hui utiliser des produits chimiques pour supprimer les bactéries à l'intérieur de la station. Si ces matériaux étaient utilisés, ils n'auraient plus besoin de produits chimiques.
Les précisions de notre astronaute maison, Lord Autriche.
Merci beaucoup. Vous dites astronaute, vous, François Geffrier ?
Ou spationaute, taïkonaute.
Je sais qu'il y a débat à chaque fois. Cosmonaute, bon, pourquoi pas. Merci François Geffrier, c'est le journal de 8h. Et à 8h16, nous retrouvons Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, votre invitée.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité sur Europe 1, c'est Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse. Où en est l'épidémie sur l'île ? L'exécutif corse qui pourrait saisir la justice pour obtenir plus de tests et de la chloroquine. Entretien à suivre.
Peut-être comme en Guadeloupe, nous étions en ligne avec Elie Domota. Tiens, je pose la question aux Français qui nous écoutent en Corse, en Guadeloupe ou ailleurs, bien sûr. Est-ce qu'il y a une inégalité selon les territoires à vos yeux ? Appelez maintenant pour échanger avec Jean-Guy Talamoni, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite. Il est 8h19 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni.
Bonjour Jean-Guy Talamoni.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Tout d'abord, quelle est la situation en Corse ? Dites-nous où en est la propagation de l'épidémie sur l'île.
Alors la situation est très inquiétante. Hein. Donc en fait, on nous annonce à l'heure actuelle 283 personnes contaminées, mais manifestement nous sommes bien au-delà, hein, puisqu'il y a déjà eu 22 décès. Et donc les deux chiffres ne sont pas cohérents. Donc on ne sait pas le nombre de personnes contaminées parce qu'on ne procède pas aux tests. 22 décès, ça nous met évidemment en première ligne. Et bien sûr, on nous dit que le pire est devant nous et que les 15 jours qui viennent vont être très très difficiles. Donc effectivement, la Corse, proche de l'Italie, la Corse avec évidemment un retard sur l'Italie, mais une avance sur nombre de régions européennes et françaises en particulier, la Corse est en première ligne.
On parle beaucoup, Jean-Guy Talamoni, de la saturation des hôpitaux dans le Grand Est, de la saturation des hôpitaux parisiens. Et qu'en est-il justement des hôpitaux d'Ajaccio, de Bastia ? Est-ce que vous pouvez nous raconter la réalité du terrain ?
Alors, la réalité du terrain, évidemment, elle est très inquiétante. Hein. Bon, on part d'assez bas, hein, puisque, pour vous donner une idée, le schéma régional de santé 2018-2023 prévoyait 6 lits de réanimation pour 100 000 habitants. Hein, donc, alors que la moyenne en France était de 11,6 lits pour 100 000 habitants, c'est-à-dire à peu près le double. Donc, on part de très bas. Depuis, bon, des efforts ont été faits ces derniers jours en particulier pour augmenter le nombre de lits de réanimation. Beaucoup sont déjà occupés du reste. Et puis il y a eu aussi cette opération pour acheminer un certain nombre de malades de l'autre côté de la mer. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez un taux d'occupation qui est très important des lits de réanimation. Vous savez, en temps normal, le taux d'occupation de la réanimation à Ajaccio était de 83% et à Bastia de 104%. Je disais hors crise, hein, bien sûr. Donc vous imaginez ce qui peut nous arriver dans les jours à venir.
Oui, situation préoccupante, Jean-Guy Talamoni, le pic, comme on l'appelle, la vague arrive. Mais vous avez parlé là de ce transfert de malades évacués de Corse vers des hôpitaux marseillais à bord du porte-hélicoptère Le Tonnerre. C'est le premier transfert d'ailleurs par la mer, hein, de malades par l'armée française. Est-ce que d'autres sont prévus ? Et est-ce que ça soulage, ça permet de désengorger les hôpitaux de l'île ?
Évidemment, ça va dans le bon sens. Ça permet effectivement de désengorger les services de réanimation qui sont très faibles au départ. En fait, si les services de réanimation étaient conformes aux besoins de la Corse, hein, aux besoins toute l'année et puis en haute saison, puisque nous sommes 330 000 habitants, mais nous arrivons jusqu'à 700 à 800 000 en haute saison. Et donc, si nous avions des structures hospitalières qui correspondaient vraiment aux besoins de la Corse, eh bien, on ne serait pas obligé de procéder à ce type d'opération. Bien, de toute façon, l'heure n'est pas la polémique. Maintenant, il faut s'organiser le mieux possible. Aujourd'hui, il y a y compris des collectes de fonds privés. Hein. Bon, nous avons pris nous-mêmes l'initiative d'une collecte de fonds qui nous a permis de récolter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acheter du matériel médical. Nous avons commencé à le faire pour acheter également, pour acheter des respirateurs. Hein. C'est aussi une priorité absolue actuellement, hein, compte tenu de l'état de nos services de réanimation. Donc, chacun fait pour le mieux. Bon, on se
chacun
tient loin
fait
de
pour tout le mieux.
Politique.
Justement, Jean-Guy Talamoni, chacun fait pour le mieux. C'est important aussi pour nous, à Europe 1, de s'intéresser aux différents territoires véritablement du pays. Est-ce que, sans esprit polémique, vous estimez justement que les mesures prises par le gouvernement sont suffisantes, compte tenu de la particularité aussi de la Corse ?
Alors non, et nous l'avons dit tous ensemble, nous l'avons dit jeudi de manière cohérente en Corse. En Corse, il y a aujourd'hui un large consensus pour demander d'une part la généralisation des tests et d'autre part que les traitements à la chloroquine puissent être prescrits d'une façon plus large que ce qu'a décidé ces derniers jours le gouvernement. Donc je dis qu'il y a un large consensus puisque les médecins corses, donc réunis au sein de l'URP, mais aussi les trois conseils de l'ordre des médecins, l'université de Corte et ses scientifiques ont dit, réunis dans un collectif qui s'appelle le collectif anti-Covid, hein, ils ont dit d'une même voix qu'il fallait élargir le champ de prescription de la chloroquine et qu'il fallait généraliser les tests. Bon, pour l'instant, nous en sommes très loin. Les politiques...
Mais attendez, c'est important, Jean-Guy Talamoni. Pourquoi est-ce qu'il y aurait, expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'il y aurait une exception Corse? Une fois que les mesures du gouvernement ont été décidées pour l'ensemble du territoire, bien, elles s'appliquent partout en France, sans différence. Et ce n'est pas à géométrie variable.
Alors, le problème, c'est que la Corse est dans le monde italien, même si administrativement, bien entendu, vous savez, le virus, il ne connaît pas les papiers de nationalité. Nous sommes dans le monde italien, géographiquement. Nous avons des relations avec l'Italie qui sont...
Vous avez encore des relations avec l'Italie ? Les relations n'ont pas été suspendues, les vols ?
Elles ont été suspendues. Elles ont été suspendues très tardivement. En ce qui me concerne, j'avais demandé plusieurs semaines avant que l'on suspende les rotations maritimes, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues de l'autre côté de la mer, notamment des personnes qui ont des résidences secondaires. Certains sont malades, d'ailleurs, nous le savons aujourd'hui. Et évidemment, cela va peser aussi sur les services de réanimation. Donc là, il y a eu un petit retard, mais bon, il y a eu un retard, mais je pense que l'heure n'est pas la polémique, puisque aujourd'hui, ces rotations ont été quasiment arrêtées, enfin, s'agissant des passagers. Hein. Le fret, bien sûr, continue. Mais bon, de toute façon, je crois que chacun fait pour le mieux. Il ne s'agit pas ici de dire que, vous savez, on a des relations qui sont relativement fluides, y compris avec les services de l'État. Nous nous rencontrons tous les matins au sein de la cellule de crise et j'imagine que chacun fait pour
bien
le
sûr.
Mieux.
Et c'est important de l'entendre de votre part.
Oui, mais il y a vraiment une difficulté, c'est que la Corse est en première ligne, que la Corse a des spécificités, que nos scientifiques, nos médecins demandent à l'unanimité de leurs organisations, demandent qu'il y ait un élargissement des possibilités de prescription de la chloroquine, c'est-à-dire y compris par des médecins non hospitaliers. C'est vraiment un cri d'alarme hein, qui a été
c'est
poussé
un cri,
par les professionnels.
Jean-Guy Talamoni, c'est un cri que vous poussez à travers, comme vous le dites, les médecins et les scientifiques corses, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'un décret encadre strictement la prescription de chloroquine en milieu hospitalier pour les cas dits graves. Oui. C'est dans ce cadre que les hôpitaux corses aussi vont le prescrire, comme sur l'ensemble du territoire français.
Ben, si nous n'arrivons pas à faire entendre raison sur ce point-là donc au gouvernement, puisque évidemment, je vous disais que les scientifiques corses et les médecins demandent l'élargissement du champ de prescription, les politiques également, de façon unanime, hein, j'ai réuni la conférence des présidents de l'Assemblée de Corse vendredi dernier, il y avait tous les groupes de l'Assemblée, y compris le groupe qui soutient le président de la République, il y avait le président du Conseil exécutif, il y avait les présidents des organes consultatifs, et à l'unanimité, tous ces élus se sont... joint aux scientifiques et aux médecins pour demander d'une part la généralisation des tests et d'autre part l'usage de la chloroquine et que la Corse soit associée à l'expérimentation marseillaise avec laquelle d'ailleurs notre université a des relations quotidiennes.
Mais Jean-Guy Talamini, vous, en tant que président de l'Assemblée de Corse, vous êtes prêt à prendre le risque, malgré aussi eh bien, les cas graves de toxicité cardiaque signalés en France avec la prescription de chloroquine? Vous êtes prêt à prendre ce risque?
Eh bien, écoutez, moi, je fais confiance aux scientifiques de Corse. Alors, on nous parle aussi de
l'autre
côté.
Mais il y a les scientifiques français, plus largement, qui sont divisés là-dessus,
tout à fait.
Vous savez.
Non, mais d'accord, mais si vous voulez, vous avez des scientifiques qui sont aujourd'hui, qui conseillent le président de la République française. Ce sont bien ces scientifiques qui ont dit, il y a quelques jours, que nous pouvions aller voter au premier tour des élections sans danger. Et ensuite, nous avons vu ce qu'il en a été. Il y a des morts qui sont dues directement à ce premier tour des élections. Il y a une ministre de la Santé qui est partie en disant que ça avait été un scandale, même si elle y avait elle-même participé à ces élections. Donc, au-delà de toute polémique, je crois quand même qu'il faut être humble des deux côtés. Même si les conseillers du président de la République sont des pontes, sont de grands professeurs avec des qualités scientifiques indéniables. Aujourd'hui, en Corse, nous avons une situation particulière et nous avons des scientifiques qui disent d'une même voix et des médecins qui disent, voilà, nous avons besoin de pouvoir prescrire de la chloroquine en dehors des cas prévus. Et surtout en amont.
Vous ne faites pas confiance surtout, et sans entrer dans la polémique, vous ne faites pas confiance au conseil scientifique qui entoure le président. Vous nous dites ce matin, eh bien, nous, les médecins, les scientifiques qui nous entourent sur l'île, veulent cette généralisation de la chloroquine malgré les risques.
Ben, écoutez, les risques, bien entendu, mais vous savez, tous les médicaments ont évidemment des effets secondaires. La chloroquine, c'est un médicament qui est connu, hein, que l'on donnait d'ailleurs à tous ceux qui y partaient pendant des dizaines d'années, hein, donc à tous ceux qui y partaient et qui partent en Afrique alors qu'ils sont parfaitement sains. C'est un médicament qui est connu, qui évidemment, il a des effets secondaires. Et il est vrai que le processus scientifique n'a pas pu aller à son terme. Chacun en est conscient. Mais on nous dit que nous sommes en guerre. Et en tout cas, nous sommes peut-être pas en guerre, mais en tout cas en situation d'urgence. Je pense, en ayant écouté les scientifiques corses, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de professeurs de médecine français qui vont dans le même sens aujourd'hui quand même, et qui contestent la position du Haut Comité, du Haut Conseil.
Donc,
Moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, prendre en compte aussi la spécificité de la Corse et le fait qu'en Corse, il y a eu véritablement une unanimité, tant sur le plan scientifique que sur le plan politique, pour demander ces dérogations.
Spécificité de la Corse, et pour conclure, imaginez, Jean-Guy Talamoni, une Corse indépendante, isolée face à cette épidémie. Est-ce que ce matin, on peut dire, malgré les retards, peut-être les carences, heureusement que l'État est là, l'État français, l'État providence, pour qu'il y ait une solidarité territoriale partout en France?
Mais je crois qu'aujourd'hui, la solidarité, elle n'est pas territoriale, elle n'est pas nationale. La solidarité, elle est internationale. Vous savez, lorsque l'on voit comme la France également et tous les pays du monde sont dépendants du reste, je crois que ce n'est pas le moment d'agiter nos drapeaux nationaux, mais le moment de laisser la parole à nos sentiments d'humanité, d'entraide entre tous les peuples de la Terre qui sont frappés aujourd'hui.
Merci Jean-Guy Talamoni. Vous restez
Merci
avec
à vous.
Nous, les questions de nos auditeurs avec Mathieu.
Oui, le président de l'Assemblée de Corse qui vous répond, qui échange avec vous. Le 39-21, maintenant il reste quelques places. Le hashtag radio ouverte aussi, n'hésitez pas, vous serez en direct avec nous.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Rebonjour à vous, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse en direct sur Europe 1 ce matin. Et merci de jouer le jeu de l'échange avec nos auditeurs, une dizaine de minutes, le 39-21, le hashtag radio ouverte, évidemment. Vous le savez, hein, tout le monde se pose énormément de questions. À commencer par celle-ci, tiens, je voudrais juste vous la poser. Si vous n'obtenez pas gain de cause sur les tests et les élargissements de prescription sur la chloroquine, c'est quoi la suite?
Bien écoutez, vous savez, compte tenu du consensus qui existe aujourd'hui au sein des organisations de médecins corses, je crois que malheureusement, un certain nombre de médecins vont, en leur âme et conscience, et respectant le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté, vont prescrire de la chloroquine. Je pense que c'est ce qui va se passer. Alors cela risque de se faire en ordre dispersé, de manière désordonnée, ce qui serait vraiment pas la meilleure solution. Nous pensons qu'il faut véritablement qu'il y ait un cadre formel qui soit consenti par le gouvernement pour permettre de prescrire la chloroquine.
Oui, mais si tel
pas seulement
pas le cas,
au cas.
Si tel
n'était pas le cas, je crois que les médecins vont prendre leur responsabilité individuelle en leur âme et conscience. Ça va être une situation très 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 inconfortable pour eux. Ils vont être face à leur conscience, comme d'ailleurs les politiques sont aujourd'hui face à leur conscience.
La justice. J'étais en ligne avec Elie Domota. C'est pour ça que je vous pose cette question. La justice est une voie nécessaire aujourd'hui dans ce type de procédure ou c'est pas la bonne méthode?
Alors, moi, je crois que ça a été une très bonne chose, hein, et donc nous avons salué l'initiative de nos amis guadeloupéens, et d'ailleurs, nous envisageons en Corse d'engager une procédure devant le tribunal administratif dans le même sens, c'est-à-dire pour faire parvenir massivement donc, des tests et pour contraindre l'ARS à commander des tests et de la chloroquine. Donc, je pense qu'effectivement, cette démarche est une démarche d'urgence, en référé que la situation nécessitait, c'est un sans doute un exemple à suivre, d'autant que l'ordonnance du tribunal guadeloupéen va dans le bon sens. C'est une décision de jurisprudence que nous avons enregistrée avec beaucoup de satisfaction et actuellement, donc, une telle démarche est à l'étude en Corse.
C'est de la politique ou de la santé? Si je vous pose cette question, c'est que, alors, pour l'heure, je vais me faire l'avocat du diable un tout petit instant, hein, mais la chloroquine n'a pas prouvé scientifiquement ses effets. Les tests, on sait qu'ils ne sont pas fiables à 100% non plus. Donc c'est de la politique ou de la santé, ça?
Non, alors là, je crois qu'on n'est vraiment pas la politique, ou alors la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire ce qui nous impose de protéger les populations dont nous avons la charge. Je crois qu'aujourd'hui, la chloroquine, je le disais tout à l'heure, le processus scientifique n'est pas allé à son terme, mais nous sommes dans une situation d'urgence. Et ce que disent de nombreux scientifiques de très haut niveau, y compris en France, ils sont très nombreux. En Corse, il y a l'unanimité des organisations de médecins et de scientifiques en ce sens. C'est de dire, en situation d'urgence, nous sommes obligés de faire appel à ce traitement qui est un traitement qui déjà a donné un certain nombre de résultats tout à fait positifs. Nous ne sommes pas dans une situation normale où on fait poursuivre la procédure qui doit conduire à l'autorisation de mise sur le marché, donc avec l'indication, hein, puisque ce médicament existe déjà sur le marché, mais avec une autre indication. Donc il s'agit aujourd'hui de prendre en compte la situation d'urgence et de débloquer la situation. Je crois que la procédure judiciaire en Guadeloupe ou en Corse, elle sert aussi à cela. À attirer l'attention de tous sur le fait qu'il faut avancer.
Et vous allez la lancer quand, cette procédure, pour terminer sur ce point avant de prendre Mathilde?
Alors aujourd'hui elle est à l'étude, et si elle est lancée, ce que pour ma part j'ai souhaité publiquement, si elle est lancée, elle le sera dans les heures qui viennent.
Merci pour ce point-là, Jean-Guy Talamoni. Accueillons Mathilde qui est avec nous au 3921, retraitée en Corse, je crois. Bonjour Mathilde.
Oui, bonjour.
Bonjour. Non, vous n'êtes pas en Corse. Je vois votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas en Corse.
Je ne suis pas en Corse, mais j'ai de la famille en Corse. J'ai de la famille en France, en Guyane, dans le monde entier.
Très bien, Mathilde. Non. Allez-y, mais vous êtes avec Jean-Guy Talamoni en ligne.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Talamoni. Mes respects.
Bonjour, Mathilde.
Mes respects, monsieur. Oui, voilà. Je suis un peu, comment dire, inquiète de voir que dans les rues d'Ajaccio, c'est vrai, il fait beau, l'île est magnifique, mais on a envie de sortir, de prendre le soleil. Il y a beaucoup de voitures qui circulent et les policiers, les gendarmes qui sont censés dire aux gens « restez chez vous », etc., bon, n'ont pas de masque, n'ont pas de gants, puisque c'est interdit de porter un masque. Et moi, franchement, si je suis arrêtée par un policier ou un gendarme, je baisse pas ma vitre parce que j'ai pas envie qu'il me postillonne au visage. D'autant que les policiers, les gendarmes ne sont pas testés et qu'on sait qu'il y a des cas, notamment au commissariat d'Ajaccio.
Il y a plusieurs choses dans ce que dit Mathilde, Jean-Guy Talamoni. D'abord sur les policiers. Les policiers, la protection, des cas, il y en a peut-être à Ajaccio, du côté de la police d'Ajaccio, ce que disait Mathilde, est-ce que c'est avéré ?
Alors, il y a ce qu'il y a de certain à notre connaissance, c'est que les syndicats de police ont saisi, y compris les autorités politiques, y compris les élus, nous-mêmes, donc parce qu'ils sont très inquiets, ils n'ont pas le matériel permettant d'être protégés, mais en fait, ils ne font pas exception, puisqu'il y a de très nombreux professionnels aujourd'hui, et au premier chef, les professionnels de santé, qui se plaignent de ne pas avoir le matériel nécessaire pour se protéger. Il y a également les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, hein, donc la CORSAD par exemple, bon, la DMR, qui se plaignent également de ne pas avoir suffisamment de matériel. Donc c'est quelque chose qui est assez général aujourd'hui. Il y a une pénurie de masques, nous en avons pour notre part commandé, et ils n'arrivent pas. Donc la France elle-même semble avoir beaucoup de mal, l'État, hein, semble avoir beaucoup de mal à en commander. Il y en a très, très peu qui sont arrivés cette semaine. Donc il y a une pénurie manifeste. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été quand même dommage d'organiser ce premier tour des élections municipales Sénégal qui a fait gaspiller du matériel médical, des masques, du gel, alors que à ce moment-là déjà, les professionnels et notamment les professionnels de santé en manquaient. Je crois que là, il y a eu une erreur qui a été commise. Voilà, sans accabler qui que ce soit, je pense qu'il faut évidemment le prendre en compte pour l'avenir.
Et dans ce que disait Mathilde, qui est toujours en ligne avec nous, hein, Mathilde, je me permets, hein, hier à Ajaccio, il y avait du monde dehors, les policiers qui essayent d'intervenir, je reprends le témoignage à rebours, le confinement n'est pas respecté.
Je crois qu'il est quand même globalement respecté, sincèrement. Bon, les éléments que nous avons, alors bien sûr, il y a eu quelques excès au début du confinement, notamment à Ajaccio, on a vu quelques regroupements sur les plages, donc ensuite des dispositifs différents ont été pris, notamment l'interdiction d'aller sur les plages. Mais ça, de manière générale, sincèrement, les Corses respectent le confinement. Tous les renseignements que nous avons vont en ce sens.
Très bien, merci Mathilde.
Merci, je ne suis pas convaincue de ça.
Allez-y, vous êtes avec Jean-Guy Talamani, c'est le moment ou jamais. Allez-y.
Pas du tout. Mais j'ai pas envie, moi, qu'un gendarme ou un policier me postillonne au visage.
Je vous comprends, madame, je vous comprends.
Voilà, personne n'aurait envie, en toutes circonstances d'ailleurs, Mathilde. Merci beaucoup de votre appel au 3921. Françoise est avec nous. On est dans la Drôme avec Françoise. Alors, Mathilde était dans l'Est de la France. On est en train de descendre vers la Corse avec Françoise. Bonjour, Françoise.
Bonjour, Mathieu.
Et puis, on va aller encore beaucoup plus au sud avec vous, puisque vous vouliez nous parler de votre fille qui vit à Mayotte, je crois.
Voilà, c'est ça. Ma fille est partie à Mayotte au mois de septembre pour y être psychologue. C'est son premier poste là-bas. Elle est jeune diplômée. Et moi, je la pensais assez en sécurité dans la mesure où le virus n'était pas arrivé dans l'île et que c'est une île qui est quand même assez loin de la métropole, assez isolée. Et en fait, ils ont laissé les avions, enfin les personnes partir. Qui était en vacances en métropole, rentrait en avion. Et maintenant, le virus est arrivé sur l'île, où les conditions sanitaires sont quand même tout à fait minimales et où l'hygiène de vie fait qu'il est quasiment impossible de confiner les gens.
Françoise, votre témoignage est important à plusieurs égards, parce que je posais la question des territoires d'une manière générale, et avec vous, Jean-Guy Talamani, nous parlons de la Corse. Mais avec Françoise, il y a aussi le caractère insulaire. On peut tout empêcher un virus d'entrer sur une île, Jean-Guy Talamani?
Oui, tout à fait. Une île, c'est une forteresse. Hein. Tant que le danger n'a pas pénétré, le virus en l'occurrence, vous êtes protégé, vous avez une certaine protection. Mais une fois qu'il est à l'intérieur, il va circuler beaucoup plus vite que sur un autre territoire. Donc effectivement, l'insularité peut être dans un premier temps, dans certaines conditions, un avantage. Mais à partir du moment où l'île est victime de l'épidémie, ce qui est le cas de la Corse aujourd'hui, qui est frappée de plein fouet, à ce moment-là, évidemment, le fait d'être une île, ça n'est plus un avantage, mais c'est un inconvénient très lourd.
Merci beaucoup, Françoise. Je comprends votre inquiétude, évidemment, si votre fille est sur place, et on va surveiller aussi la situation de Mayotte. Il n'y a pas de raison, c'est un département français aussi. Merci beaucoup de votre appel, Françoise, ce matin, pour Jean-Guy Talamani. Vous avez dit, Jean-Guy Talamani, à Sonia Mabrouk, il y a quelques minutes, la réalité du terrain est très inquiétante en Corse. Je voulais simplement vous demander, il y a une réalité du terrain et une autre réalité?
Il y a la réalité du terrain telle que nous la vivons et telle que la vivent en particulier les praticiens. Nous sommes à l'écoute, je dirais, heure par heure, de ce que disent les praticiens de terrain. Il y a évidemment un décalage entre ce que l'on nous dit en Corse et ce que nous entendons à Paris en conférence de presse, et notamment des experts qui entourent le gouvernement et le président de la République.
Mais ils mentent, ils se trompent,
mais sincèrement, moi je ne fais pas de procès d'intention et je pense que chacun essaye de faire pour le mieux. Mais il y a eu des erreurs manifestes qui ont déjà été commises. Je reviens sur le premier tour des élections municipales. On nous a dit qu'il était possible, sans danger excessif, de le tenir. On s'est rendu compte que depuis, il y a des gens qui ont été contaminés, il y a eu des morts, y compris en Corse d'ailleurs, il y a eu un mort qui semble directement lié aux opérations électorales. Il y a eu manifestement de nombreux contaminés en France, en Corse. Bon, je crois que ça a été une erreur, mais une erreur qui a été validée scientifiquement en amont. Donc je veux dire, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et moi je ne veux accabler personne. Je dis simplement que nous, élus de la Corse, nous avons une unanimité des scientifiques et des médecins corses, en tout cas de leurs organisations. Nous avons une réalité de terrain qui nous remonte heure par heure. On nous prédit dans les heures qui viennent et les jours qui viennent véritablement une vague d'une ampleur que nous redoutons vraiment. Nous sommes vraiment très inquiets aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas associer la Corse à l'expérience qui est menée déjeuner à Marseille. Pourquoi ne pas faire droit aux demandes unanimes des praticiens corses et des, et encore une fois, des politiques corses, y compris d'ailleurs des élus qui soutiennent le gouvernement?
Merci beaucoup Jean-Guy Talamoni, merci d'avoir joué le jeu avec nos auditeurs, auditrices en l'occurrence ce matin, et puis d'avoir
merci
répondu
à
toutes nos questions depuis 8h15 ce matin. Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse sur Europe 1, il est 8h43. Vous restez bien sur Europe 1, à suivre votre matinale prolongée et de 9h à 9h30 un débat, quelle est la place des artistes dans cette lutte contre le coronavirus. Mon invité, 8h43. Booba, rien que ça, figurez-vous, je le précise, hein. C'est très rare que Booba s'exprime dans des médias dits classiques, médias généralistes. Invité exceptionnel en direct de chez lui à Miami, il tente une opération de pédagogie auprès d'un public qui n'a peut-être pas suffisamment respecté les règles de confinement. Eh bien, nous serons en direct dans un peu plus d'un quart d'heure avec Booba en direct de Miami et avec vous surtout. Quelle est la place des artistes dans cette lutte contre le coronavirus? 3921 et le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite pour la revue de presse. À 8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard.
Oui, ma chère Julie, bienvenue. Vous venez de quitter, chers auditeurs Radio Corse, bienvenue sur Radio Normandie. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, je fais ma radio, vous savez, je le rappelle, depuis mon garage en Normandie et mon garage pas chauffé. Donc je rappelle, c'est donc Mathieu Béliard, je suis un petit peu le Mike Horn des ondes depuis plusieurs jours maintenant.
Sûr.
Oui. Tout de suite, mais bon, ça n'intéresse personne, tout de suite, l'info du jour, c'est la trentaine d'effets indésirables. Notez, après l'automédication à la chloroquine recommandée par le professeur Raoult, attention, on ne rappellera jamais assez, si vous ne respectez pas les doses, vous risquez de voir vous pousser de longs cheveux blancs et un gros bouc affreux. Voilà. Vous voyez de qui je veux parler. Soyez prudents.
Oh non, non.
Car le bouc n'est plus à la mode, hein, on le signale sur Radio Normandie. L'autre info du jour, c'est que depuis le confinement, il y a moins d'accidents de la route. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf, je vais encore vous reparler de moi, pardonnez-moi, sauf pour moi, oui, moi je risque tous les matins de me faire renverser par une voiture, la mienne, puisque je le rappelle, je travaille dans mon garage. Il y a un tel bordel dans mon garage, plus la voiture, que quand j'arrive le matin, je ne peux rien vous cacher, à 3h15, avec mes feuilles, mon papier, mon micro, mon café, je me mange la voiture tous les matins. Le kangourou, on aura le kangourou demain qui pourra témoigner si veut nous parler. Voilà, à vous Julie.
Il suffit de mettre le frein à main, Mathieu.
Je vais passer la première.
Allez, on accueille pour commencer la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour. Il y a quelqu'un en studio. Oh, et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Vous êtes tout.
Non, mais il n'y a personne en studio. On est tous chacun chez soi, en télétravail, en radio-travail. Ouais.
Oui, pardon. Autant pour moi. Vous avez vu que depuis que je suis presque élu maire de Paris, on va dire que comme j'ai gagné le premier tour, je suis demi-maire.
Il y a
demi-mour, mais il y a l'actrice, mais moi je suis demi-mère. Un peu d'humour de qualité ne nuit pas. Bref, depuis que je suis demi-mère, on roule beaucoup mieux dans Paris, vous l'aurez noté. J'ai fait en à peine 15 jours, vous le noterez, un super boulot au niveau de la circulation. Vous avez remarqué, il y a zéro embouteillage, donc quelque part, j'ai envie d'être un peu autosatisfaite. Merci qui ? Merci Anne.
On va dire que le coronavirus vous a un petit peu aidé, hein, mais passons. Alors, il est vrai que la pollution a beaucoup reculé depuis 15 jours.
Mais oui, mais figurez-vous que on a retrouvé hier des traces d'oxygène dans l'air de Paris. En quantité infime, je vous l'accorde. Mais c'est encourageant.
Très encourageant. Bah, merci d'être passé, Madame Hidalgo. À bientôt. Quand il en rajoute, on ne sait jamais quand il arrive. Allez.
Ça, c'est ma fond.
Ça peut durer longtemps.
Comme votre confinement en garage.
Selon le sondage IFOP du JDD, le chef de l'État gagne 11% dans les sondages. Ouais. Il est actuellement à 43% d'opinion favorable.
Ouais, tout ça, c'est injuste. J'ai envie de même dire, pardonnez-moi d'être trivial, mais c'est dégueulasse. Plus 11. Et franchement, qu'est-ce qu'il a fait spécial? Moi aussi, j'aurais pu prendre un air grave et dire, oui, nous sommes en guerre. Et en rajouter, avec les tentes derrière moi.
Oui, oui.
Kaki.
Alors. Bonjour, monsieur Hollande. D'abord.
Oui, pardon, oui. Parler d'une guerre, bonjour, madame Julie, j'en oublie. Par mon énervement, toute politesse.
Oui, allez, c'est
oui, on n'a pas. Non, mais vous parlez d'une guerre, on n'a pas de masque, pas de gants, pas de test, pas de lit, pas de respirateur et pas de PQ. C'est une guerre sans armes, ni munitions, ni chars d'assaut.
Oui,
c'est
oui, mais. Non, mais sa gestion de la crise plaît apparemment. Hein.
Non, mais plaît apparemment. Mais ouvrez les yeux, enfin.
Quoi?
Non, mais vous imaginez le général de Gaulle depuis Londres, hein? Oui, on fait un son à la Vincent Herbouette. Les Français parlent au français. Le Moltenel n'est plus fonctionnel. Je répète, le Moltenel n'est plus fonctionnel. Le Lotus est terminus. Je répète, le Lotus est terminus. J'en ai d'autres. Hein.
Ah bah allez-y alors.
Les Super-U n'ont plus de PQ. Je répète. Et sur EU, plus de PQ.
Il va craquer là.
Non, mais tu parles d'un chef de guerre, le Macron. Non, franchement, oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Alors, si vous voulez.
Autre chose, on a appris hier que le groupe PSA envisageait de construire des respirateurs.
Oui, oui, oui. Alors là, je dis tout de même attention. Hein, en matière de respirateurs, je préfère avoir des respirateurs Mercedes que des respirateurs Peugeot.
Oula, s'il vous plaît.
N'oublions pas qu'ils auront créé la 106 GTI.
Oui, mais enfin, l'heure n'est pas comme ça au mauvais esprit. On vous laisse, hein. Merci François Hollande.
Même la 205, donc, qui est d'ailleurs stockée dans le garage de M. Béliard.
Qu'est-ce qu'il a comme voiture, Mathieu?
C'est un garage biplace.
Alors, l'info est étonnante, mais très sérieuse. Elle est relayée par le site Huffington Post. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté sur le réseau social Instagram son cochon d'Inde, qui s'appelle Jackie. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, madame Julie. Monsieur Béliard, j'assume. Je me suis dit, le monde entier est paralysé par une pandémie mortelle. L'économie se paralyse, le chômage explose. Bruno, il n'y a pas de débat sur ce point. C'est le timing parfait pour présenter au monde entier ton cochon d'Inde, Jackie. Bien, dis bon, c'est bien, voilà, voilà. Dis bonjour à la dame, Jackie. Il est mignon, hein, vous ne trouvez pas?
Non, mais c'est pas vrai, mais il est où ce con, là? Il est où ce...
Je suis là, monsieur le président. Je crois qu'il me parle.
Oui, on pense aussi. Oui, bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour, Julie. Non, mais t'as que ça à foutre de prendre des photos de ton hamster, putain. Non, mais c'est pas vrai.
Mais monsieur le président, on a eu tout de même 3712 likes avec Jockey. Et puis, si je peux me permettre, monsieur le président, ce n'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde. Et je dois préciser.
Mais je m'en branle de ton cochon d'Inde, putain, de ses likes. Tu sais, tu peux te foutre ton cochon d'Inde, Bruno.
Oh non, monsieur le président, là, je vous me choquez, monsieur le président.
Non, mais t'es ministre de l'économie ou t'es Brigitte Bardot? Attends. Nemo, viens ici. Chope-le, bouffe-le.
Oh non, mon Jackie.
Voilà, tu sais, tu pourras mettre une photo en noir et blanc de Jackie. Hein? Rest in peace, Jackie. Hein? Allez, remets-toi au boulot, putain, c'est pas vrai, je rêve.
Eh ben, allez, bah, au revoir, Jackie. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail,
Michel, a annoncé... Il a bouffé mon Jackie.
Muriel Pénicaud a annoncé que 2 200 000 salariés étaient concernés par le chômage partiel. Bonjour, madame Pénicaud.
Oui, bonjour. Oui, c'est moi, la denrée, pardon. C'est moi, Muriel Pénicaud. Bonjour, monsieur Béliard. Alors écoutez, pour le chômage partiel, nous avons décidé que parce que les travailleurs qui ne travaillent pas, ils en bénéficieront bien sûr, mais pas les travailleurs au chômage, parce que si les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a pas de raison qu'ils soient au chômage et pour le faire. Voilà, vous avez compris?
Pas du tout, non, non. Oui. Bon. Bon, on va essayer de résumer. On essaie de résumer. Hein. Le chômage partiel, c'est l'État qui complète les salaires des employés qui ne peuvent plus travailler. Mais ça doit coûter une fortune, ça, non? De compléter oui, alors, les salaires de plus de 2 millions de personnes.
C'est... Voilà, oui. Alors, effectivement, c'est pas donné. C'est cher. Et puis, j'en ai parlé au président de la République mais il est désespéré par la situation.
Ah, parce que le coronavirus fait de nouvelles victimes?
Non, parce que le coronavirus oblige le gouvernement à payer des gens à rien foutre. Et ça rend le président malade. Ça rend le président malade.
Les syndicats sont très remontés contre les ordonnances que vous avez prises sur le Code du travail. Hein. Ils ont annoncé une grève pour avril. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Alors, bien sûr, en tant que ministre du Travail, je leur dis que le gouvernement va demander aux actifs, pardon, au patron, parce que si le président nous dit oui, on fera donc différemment. Donc nous allons le faire. Voilà, vous avez compris?
Ouais. Rien du tout. Toujours pas, non, absolument pas.
Vous avez pas compris? Non. Écoutez, tant mieux, parce que si les syndicats comprenaient vraiment ce qu'on veut faire, ils annonceraient une grève jusqu'en 2054. Voilà, vous m'excusez? Je vais remonter dans ma soucoupe. Au revoir.
Au revoir, Madame Pénicaud. À bientôt quand même. Alors qu'on déplore en France le manque de tests, à Marseille, les équipes du professeur Raoul dépistent en masse. Jean-Claude Gaudin, bonjour.
Ah, bonjour. Ah, ce bon professeur Raoult. Nous avons deux idoles à Marseille. Basile Boli, parce qu'il a mis la tête en finale de Ligue des Champions. Et le professeur Raoult, parce qu'il a mis un doigt à tous les chercheurs du monde. Vous savez comment... Oui, c'est délicat le matin. Vous savez comment je l'appelle, mon Raoult?
Bah non, non.
Le savant de Marseille.
Oh oui, vous n'êtes pas le premier à la faire, celle-là.
Ah bon? Vous êtes sûr? Vous traînez sur Internet. Non, c'est pas le genre de la maison d'aller piquer des blagues sur Internet.
Le professeur Didier Raoult a affirmé hier qu'on mourait moins à Marseille que partout ailleurs. Ben, c'est là-bas qu'est son institut, en plus, vous me confirmez.
Effectivement, Madame Julehy, on enregistre des chiffres stupéfiants. Les Marseillais meurent beaucoup moins. Alors, peut-être, je vous l'accorde, que les résultats du professeur Raoult y sont pour quelque chose, mais il faut aussi prendre en compte que les cousins Scarpellini sont confinés chez eux. Évidemment, par conséquent, ça fait des morts en moins, ainsi que les frères Pellegrini, les frères Scarsini, les cousins Macchioni. Il n'y en a pas un qui a mis un pied dehors depuis 15 jours.
Ah,
c'est
exceptionnel. Ah bah oui.
Merci Nicolas, bravo. Et merci Nicolas Canteloup, Julie, évidemment, que l'on retrouve tous les matins. Ça ne change pas, évidemment. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas aussi, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. 8h58. Les infos, Fanny Agostini, le rendez-vous à la ferme, la météo et Booba sur Europe 1 ce matin, le rappeur Booba de 9h10 à 9h30 face au coronavirus. Quel est le rôle des artistes? Je vous attends au 39-21. À tout de suite. Europe 1, il est presque 9h, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation. On lui en avait prescrit beaucoup, beaucoup de patients. Comme ils ont du Plaquenil et qu'ils se disent qu'apparemment, peut-être, ça peut guérir, mais il est pas.
Attention, danger, le Plaquenil ne doit pas être pris en automédication. Avertissement lancé par les autorités de santé. 12 morts en 15 jours dans une maison de retraite de Mougins dans les Alpes-Maritimes. Nous serons en direct avec Frédéric Michel dès le début de ce journal. L'aéroport d'Orly ferme ce soir pour une durée indéterminée. Le patron d'ADP Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, fait un premier bilan des pertes sur Europe 1.
Nous chiffrons la perte de chiffre d'affaires à plus d'un milliard d'euros. Non seulement la crise est grave, mais en plus la durée du redémarrage est probablement plus longue que les crises précédentes.
Et puis l'opération de communication de la Chine pour tenter de faire oublier que la pandémie a commencé dans le pays.
C'est une opération de communication pour montrer une image de la Chine qui, en plus de gérer la crise chez elle, parvient à aider les autres.
Et au menu après ce journal, Mathieu.
Un débat face au coronavirus. Quel est le rôle, quelle est la place des artistes? Et pour animer ce débat avec moi, si j'ose dire, le rappeur Booba, c'est exceptionnel de l'entendre sur un média dit classique. Eh bien, Booba est sur Europe 1 juste après ce journal, 9h01.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Plus de 3000 décès à l'hôpital, 418 ces dernières 24 heures, la plus forte hausse jusqu'ici, mais ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte des EHPAD où le virus fait des ravages. Dans les Alpes-Maritimes à Mougins, une maison de retraite enregistre ainsi 12 morts en 2 semaines, Frédéric Michel.
Effectivement, et détails glaçants révélés par nos confrères de Nice Matin, sur tous les certificats de décès étaient écrits Covid-19 suspicion. L'ARS confirme que l'EHPAD La Riviera a dû faire face à 12 décès en 15 jours, mais indique qu'une enquête est en cours pour confirmer les causes exactes de ces décès. L'ARS refuse d'affirmer que ces personnes âgées mortes dans l'établissement ou à l'hôpital ont bien été contaminées par le virus. Deux équipes mobiles d'hygiène ont pourtant été envoyées dans l'établissement. La direction de la maison de retraite ne nie pas que la situation est grave, comme partout en France. Le groupe Korian qui gère cette structure implantée à Mougins dit d'abord penser aux familles qu'elle souhaite informer en toute transparence ses familles. Le groupe rend hommage à son personnel devant l'établissement. Les véhicules de pompes funèbres n'arrêtent pas de faire des allers-retours et il a même fallu trouver des volontaires pour procéder aux mises en bière.
Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1.
Et si vous ressentez des symptômes du Covid-19, l'agence du médicament lance cet avertissement. Ne prenez pas de Plaquenil ou de Caletra sans avis médical.
Oui, ce sont des médicaments toujours en phase de test, mais que trop de Français prennent en automédication. Les autorités s'en inquiètent. Mathieu Charrier.
Plusieurs enquêtes poussées sont en cours, mais une chose est sûre, les 4 patients admis en réanimation parce qu'ils ont pris du Plaquenil sans avis médical se multiplient. 30 malades qui ont développé des effets secondaires suspects sont même à l'étude, selon l'agence du médicament. Et il y a même des investigations en cours sur 3 patients décédé, car le risque majeur lorsque l'on prend du Plaquenil, par exemple, en automédication, c'est l'infarctus. Or, ce médicament, jusqu'à janvier dernier, pouvait être acheté sans ordonnance, notamment pour se protéger du paludisme. Il en reste donc dans les pharmacies des Français qui, pour certains, depuis les déclarations du professeur Raoult, en prennent d'eux-mêmes. Olivier est médecin régulateur au SAMU des Hauts-de-Seine. Hier encore, il a reçu cet appel.
C'est une patiente jeune qui appelait parce qu'elle était très angoissée, parce qu'elle pensait avoir le coronavirus et que depuis 24 heures, elle avait des palpitations, donc elle sentait son cœur battre. Et donc elle me raconte qu'entre autres, elle a pris du Plaquenil parce qu'il lui en restait d'une ancienne hospitalisation. On lui en avait prescrit. Et comme elle avait entendu dans les médias que peut-être ça pouvait être un traitement, bah elle en a pris d'elle-même. Beaucoup, beaucoup de patients, comme ils ont du Plaquenil et qui se disent qu'apparemment peut-être ça peut guérir, ben, ils le prennent.
D'où ce rappel des autorités de santé. Les effets de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19 ne sont toujours pas prouvés. Des tests sont en cours et sa prescription reste donc réservée aux cas les plus graves et dans un cadre hospitalier.
23h30 ce soir, Orly ferme pour une durée indéterminée. Fini les vols commerciaux, seuls les vols de secours médical, d'évacuation sanitaire ou encore de fret liés à la crise vont se poursuivre.
Le président d'ADP Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, était votre invité ce matin, Mathieu. Il a évalué l'ampleur des pertes depuis le début de la crise.
Nous chiffrons la perte de chiffre d'affaires à plus d'un milliard d'euros. Nous avons donc 80% des effectifs en temps partiel. Alors nous avons lancé un plan d'économie très important, de façon à essayer de préserver au maximum notre indépendance et essayer de ne pas abuser des aides publiques parce que il y a tellement de secteurs nécessités entre guillemets que nos collaborateurs particulièrement responsables, je salue les organisations syndicales qui ont accepté le plan d'économie que nous avons fait, essayent de se mettre à la cape, comme on dit en navigation.
Quand vous dites un milliard de pertes, vous parlez d'Aéroports de Paris ou d'Orly juste ?
Pour le groupe Aéroports de Paris.
Oui. Votre secteur d'activité est au devant d'une crise profonde ?
Il est pas au devant, il est au milieu d'une crise gravissime, parce que non seulement la crise est grave, mais en plus la durée du redémarrage est probablement plus longue que les crises précédentes.
Augustin de Romanet, patron d'ADP, ce matin sur Europe 1. 21 000 entreprises ont déjà effectué une demande de prêt garanti par l'État pour sauver leur trésorerie. Annonce du ministre de l'Économie ce matin, Bruno Le Maire, 135 000 euros de prêt en moyenne. Par ailleurs, plus de 500 000 entreprises de moins de 50 salariés ont demandé à bénéficier d'un report de charges sociales en mars. Des entreprises en difficulté qui ont souvent recours au chômage partiel. Désormais, les particuliers employeurs peuvent aussi utiliser le chômage partiel pour leurs salariés à domicile. Plus de 3 millions de personnes emploient chaque mois un salarié pour de l'aide à domicile, du ménage ou des cours. Un quart des 10 000 marchés alimentaires de France ouvrent cette semaine, sous conditions sanitaires strictes bien évidemment. La grande majorité dans de petites communes avec moins de 10 commerçants, mais aussi à Lille, Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Grenoble. Aucune dérogation en revanche pour Paris.
9h06 sur Europe 1, Emmanuel Macron visite ce matin le plus important des 4 producteurs français de masques chirurgicaux, Colmy Open à Saint-Barthélemy. Dans d'Anjou, près d'Angers, qui fonctionne désormais 24 heures sur 24.
Oui, les besoins sont énormes. 40 millions de masques par semaine pour le personnel soignant. La France a commandé 1 milliard de masques à la Chine et grâce à un pont aérien, plus de 8 millions sont déjà arrivés hier, 12 millions attendus demain. Pourtant, les dirigeants européens ont de plus en plus de mal à supporter, entre guillemets, la diplomatie de la santé de Pékin. La Chine tente ainsi de faire oublier que la pandémie a débuté sur son sol. Jean-Sébastien Soldaini.
Un mois après le début officiel de l'épidémie, la Chine commence à réécrire l'histoire. En Asie, tout d'abord, dès les premiers cas connus à Tokyo, les diplomates parlent du coronavirus japonais, comme s'il était inacceptable pour l'image du pays d'être pointé du doigt comme étant l'épicentre du Covid-19. Et si le virus continue de se répandre, affirment des responsables locaux, ce serait parce que des Iraniens ou des Italiens l'ont réimporté. Alors après avoir tout fait pour essayer de dissocier la Chine de la pandémie, Pékin passe désormais à la phase 2. Marc Julienne, spécialiste de la Chine à l'IFRI, voit avec ses envois de masques et de médecins en Europe une opération reconquête des opinions publiques occidentales.
Là, c'est une opération de communication qui cherche à faire oublier justement le début de la crise avec cette aide médicale offerte partout avec grand renfort de propagande à travers les médias chinois et parfois même dans les médias occidentaux pour montrer une image de la Chine, une image responsable au chevet des autres puissances, mais qui en plus de gérer la crise chez elles, parvient à aider les autres.
Sauf que la qualité de certains masques laisse à désirer et qu'une partie de l'aide envoyée en Italie n'est pas sous forme de don. C'est un achat effectué par le gouvernement de Giuseppe Conte.
L'Espagne, deuxième pays le plus touché au monde, enregistre un ralentissement continu du nombre de morts, ce qui laisse penser que le pic de l'épidémie est proche. Ce matin sur Europe 1, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González, a estimé que les mesures prises dans son pays commençaient à porter leurs fruits, mais qu'il ne fallait pas baisser la garde. Et puis les obsèques de Michel Hidalgo seront célébrées aujourd'hui dans la plus grande discrétion. Le mythique entraîneur des Bleus est décédé la semaine dernière à 87 ans. Sa famille révèle qu'en hommage à la ville de Marseille et au club dont il a été le sélectionneur, il sera vêtu d'un survêtement de l'OM pour ce grand départ.
Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 9h sur Europe 1, 9h08. Et désormais pour terminer ce journal de 9h tous les matins, nous allons retrouver le rendez-vous à la ferme de Fanny Agostini chez elle en Haute-Loire. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Fanny, un jardin extraordinaire, oui, parce qu'avec le coronavirus, on l'entend partout, c'est la nature qui reprend ses droits.
Oui, Mathieu, la Terre n'aura jamais connu finalement un printemps aussi paisible depuis des décennies. Les animaux tirent vraiment profit du confinement. Tiens, on a vu même des colverts, des canards traverser à pattes le périph' parisien ces derniers jours. Au Chili, les pumas sont de retour dans les rues, sans parler de la qualité de l'air impressionnante. Les particules de dioxyde d'azote liées à la circulation routière, les fameux PM10, qui sont à l'origine de maladies pulmonaires et donc de milliers de décès par an, se sont littéralement volatilisés.
Des effets qui risquent d'être éphémères.
Ben c'est ça le problème, cette parenthèse oxygénante pour la faune, la flore, nos poumons et le climat ne doit pas être un miroir aux alouettes, car ce dont nous avons vraiment besoin, comme le dit très bien le docteur en sciences politiques François Gémen, ce n'est pas d'une année blanche, mais d'une baisse progressive et continue de nos émissions mondiales. C'est vrai que les crises précédentes sont riches en enseignements. Après 2008, par exemple, les émissions de CO2 en Chine ont explosé l'année suivante. Alors lorsque nous rentrerons dans la période post-corona, on peut légitimement craindre que la relance économique vienne justifier la mise de côté des préoccupations climatiques.
C'est l'annonce de certains pays qui peut nous laisser penser cela.
Bah oui, le Canada prévoit déjà un plan de soutien des énergies fossiles, tandis que les États-Unis anticipent de lever toutes les sanctions vis-à-vis des entreprises polluantes pour les aider à reprendre leurs activités. En soi, business as usual. Ce qui comptera vraiment, Mathieu, après cette crise, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de purifier l'air sur le court terme, mais bien d'assainir notre économie sur le long terme.
Merci beaucoup Fanny Agostini, quel plaisir de retrouver notre rendez-vous à la ferme tous les matins après le journal de 9h. Il est 9h10. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, bien c'est une matinée qui a débuté dans un froid assez intense tout de même, avec du moins 5 degrés à Luxeuil, moins 4 à Épinal et Vichy. Vous voyez que ce sont des températures très basses. Les températures derrière la fourchette se situaient ce matin entre moins 5 et plus 5 degrés. Alors aujourd'hui, demain, nous aurons, et après-demain même, nous aurons un temps froid le matin. Ensuite, ça va se réchauffer sensiblement pour la fin de semaine, pour vendredi et surtout samedi et dimanche. Aujourd'hui et demain, d'ailleurs, nous aurons exactement le même type de temps, c'est-à-dire le soleil sur 4 quasiment toute la France, avec quelques nuances que j'installe tout de suite sur la carte. Dans le sud-ouest et sur le Languedoc-Roussillon, le sud-ouest, c'est-à-dire Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque, et dans toutes ces régions, plus le Languedoc-Roussillon, eh bien, nous aurons un ciel souvent nuageux, avec des vents qui souffleront autour de 50-60 et qui vont accentuer l'impression de froid. Et puis des averses sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, le soleil, avec aussi le vent, attention, 50-60, ça veut dire que les températures de 12 à 16 degrés que je vous annonce depuis ce matin, qui sont des températures sous abri, seront beaucoup plus fraîches. Mais comme nous sommes à la maison, laissez vos fenêtres peut-être juste entrouvertes. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, 9h11.
Quand on rentre sur la piste, on est venu teaser.
Le rappeur Booba, c'est un événement ce matin. Lui aussi se mobilise sur les réseaux sociaux et il a choisi Europe 1 ce matin pour en parler. Il parle très peu dans les médias et jusqu'à 9h30, il est avec nous, avec vous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte avec ce débat face au coronavirus. Quelle est la place de l'artiste? À tout de suite.
Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à 9h30, nous sommes en direct avec le rappeur Booba, en direct de chez lui, confiné à Miami. Bonjour Booba.
Salut Mathieu.
Merci beaucoup d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour nous parler de votre mobilisation sur les réseaux sociaux contre le coronavirus. Vous allez être avec nous jusqu'à 9h30 et je pose cette question. Quelle est la place de l'artiste? Vous avez publié un reportage sur Instagram. Est-ce que c'est un reportage, une émission, un échange en tout cas réalisé en visioconférence avec plusieurs invités? Simplement pour les auditeurs qui l'auraient manqué, voilà comment ça commence.
Salut à tous, on a décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu'on peut, faire comprendre à la population que l'heure est très grave, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et que la seule solution c'est de rester confiné. Donc j'utilise mon following pour sensibiliser les gens, c'est l'heure d'être confiné, c'est l'heure d'être solidaire.
Et vous dites aussi c'est le moment de servir à quelque chose. Booba, simplement vous avez un rôle Exactement. À jouer dans cette lutte contre le coronavirus?
On a tous un rôle à jouer, c'est un problème mondial. Et comme je l'ai dit dans l'intro de Corona Time, le but c'est d'utiliser mon following pour sensibiliser les gens, les inciter à respecter le confinement et à rester chez eux.
Et vous embarquez tous vos fans, Booba, dans cette aventure, vous les appelez désormais les Corona Soldiers?
Non, c'est les Corona Soldiers, c'est plus...
Le personnel plus mobilisé?
Le personnel mobilisé, les infirmiers, la police, enfin c'est un peu tout le monde, parce que c'est l'heure de s'entraider et tout le monde doit faire passer le message. Et le confinement est très important et c'est une des meilleures solutions qu'on a aujourd'hui pour lutter contre le virus.
Pour l'instant, et vous le répétez dans ces 26 minutes, un vidéo-reportage de la durée d'une sitcom qui s'appelle Corona Time, c'est une émission qui va être récurrente?
On va essayer d'en faire une toutes les semaines, oui.
Toutes les semaines, on va retrouver donc ces 26 minutes voilà. De Booba. Je vous pose simplement la question d'abord,
actualité.
Pour démarrer, avant d'entrer dans le détail de ce qui est dit dans ce premier épisode, si j'ose dire, vous auriez pu simplement rapper dans votre cuisine, ça aurait très bien marché. Hein.
Ouais, mais là, le but c'est pas de rapper, le but c'est pas de chanter, le but c'est de faire passer l'information. Et j'ai la chance d'avoir une audience, j'ai pignon sur rue, j'ai beaucoup de followers. Donc j'en profite pour faire passer le message. Et je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Chanter, c'est bien, mais sauver des vies, c'est mieux.
Et c'est l'urgence, surtout. Alors pour se rendre compte, mais vraiment j'invite nos auditeurs à aller voir ces 26 minutes. Voilà un petit extrait. Vous êtes chez vous, à Miami, confiné. Vous appelez Ben, qui est médiateur et qui se promène dans Nanterre à la recherche de jeunes qui ne sont pas confinés, justement, qui ne jouent pas le jeu. On écoute l'extrait.
Mon frérot, ouais. On sait comment là, on est en période de corona, comment ça se fait, t'es dehors comme ça?
J'arrive pas à rester chez moi, je peux pas, impossible, je m'ennuie.
Ah ouais?
Ouais.
Mais pourquoi, c'est le soleil qui te dit de sortir ou?
Ouais, bah ouais.
Mais tu sais que c'est dangereux quand même.
Ouais, mais tout le monde sort.
Mais il faut que tu fasses quand même attention, frérot.
Ah bah ouais, toujours.
Parce que tu peux le transmettre à tes parents, toi tu peux être un porteur sain, et tu rentres chez toi, tu le donnes à tes parents et ça peut être dangereux. Est-ce que t'es conscient de ça?
Ah bah oui.
T'es sûr, t'es conscient?
Ouais, bah ouais.
Tu serais pas là.
Non, mais je me lave tout le temps les mains, tout ce qu'il y a.
Bon, je vais rappeler, Bouba, qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui vous suivent sur Twitter, et je ne parle que de Twitter. Vous avez l'impression qu'il y a un public qui n'a peut-être pas bien compris le message officiel, et que vous avez accès à ce public ?
Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas imprimé, qui ne comprennent pas que le danger est réel, que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Parce que c'est vrai que se battre contre un ennemi invisible, c'est compliqué. C'est du jamais vu. On a, de ma génération, on n'a jamais vécu la guerre, entre guillemets. Donc c'est dur à faire comprendre. C'est pour ça qu'on fait passer le message et qu'on insiste que le confinement est très important et qu'il faut vraiment rester chez soi pour se protéger soi-même, protéger les siens, ceux qu'on aime, ses parents, ses enfants, tout le monde. C'est la seule solution. C'est une épreuve difficile à traverser, qu'on soit à Miami, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique. Moi, j'ai mes parents, j'ai ma mère, mon frère à Paris, mon père est au Sénégal. Donc, il y a un vrai danger pour tout le monde et je suis vraiment inquiet pour tout le monde.
Et la technologie vous permet aujourd'hui de passer votre message. Tiens, l'interview Echo hier soir sur Europe 1 avec Emmanuel Duteil, c'était le patron de Zoom, cette application avec laquelle on est tous en visioconférence. Alors, c'est bien de faire des apéros Facebook. Vous organisez depuis Miami, depuis votre salon, pour être en direct avec une personne à Nanterre et puis appeler une autre personne à Paris, etc. Et à travers le monde, faire circuler l'information.
Voilà, sur toute la planète et un maximum de gens possible.
Avec le sens de la formule qu'on vous connaît, le Corona Time, c'est l'émission, la confinerie n'est pas finie. C'est ce que vous dites.
Le sens de la formule, le sens de la réalité surtout.
Le sens de.
Mais c'est grave, c'est pas des blagues.
Ça vous inquiète, c'est pas le rappeur qui parle ?
Non, c'est l'homme qui parle et c'est le. Voilà, moi je suis très, très conscient du danger. Donc voilà, je fais passer le message à un maximum de personnes possibles.
On est en ligne avec un auditeur d'Europe 1, Pierre, qui nous appelle, si je ne dis pas de bêtises, des Hautes-Pyrénées. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes sur Europe 1. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées. Moi je suis dans mon garage en Normandie et Bouba est dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, je ne sais pas, vous êtes où dans votre appartement
dans
à Miami
salon.
Dans le salon à Miami,
salon.
Pierre, allez-y.
Oui, bonjour. Alors déjà, merci pour passer l'info auprès de tous tes followers, Bouba. Vos followers, pardon. Parce que c'est avec 5 Merci. Millions d'abonnés, c'est bien. Moi, bon, je suis pas pro Booba, enfin, parce que je suis un peu du rap un peu conscient, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, voilà.
Il y a un débat de rap là.
C'est pas ça qu'on va mener comme débat aujourd'hui. Non, en fait, voilà, j'ai regardé un peu votre fil Instagram et vous faites vraiment une critique un peu de l'argent roi, quoi. Et comment on fait pour faire une critique de l'argent roi? Alors que, en fait, dans le business model que vous menez et aussi dans les chansons que vous interprétez, il y a que ça qui est mis en avant. Et sachant que cet argent, en fait, on en aurait besoin pour.
Mais on le retrouve le débat sur le rap finalement, Pierre, dans votre question, non, Bouba?
Je sais pas, mais c'est intéressant.
Oui, ben. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y Pierre, pardon, affinez votre question.
Non, je disais juste que du coup, en fait, c'est l'argent en gros qui a détruit la planète, qui détruit la planète et qui fait que les zones des chauves-souris n'ont plus accès.
C'est qui détruit la planète pour l'instant.
Oui, mais c'est du fait qu'on a détruit les zones des chauves-souris qui n'ont plus accès, plus accès à Oui. Et du coup, comment on peut allier cette critique du coup du capitalisme que je prends acte et que je trouve ça super en acte avec le fait que dans le business model et même dans les chansons, on prône l'argent roi.
L'argent roi, Bouba.
Là, c'est plus l'argent qui est roi, c'est la santé là.
Et ça doit passer en priorité.
Voilà, l'argent ne compte plus. On va plus en boîte de nuit. La Ferrari, elle roule plus. Il y a plus rien qui compte. Ce qui compte, c'est de rester chez soi. Et de faire attention à soi, à ses proches.
Et alors par rapport à la remarque de Pierre, Bouba, est-ce qu'aujourd'hui il y a un Bouba, l'artiste qu'on connaît, avec les albums, avec les albums de rap, les clips qui vont avec, toute l'image, tout le jeu qui va avec, et je sais pas, peut-être Ellie qui présente cette émission depuis Miami?
Ah ouais, non mais là le rap, on est plus du tout dedans là, on est plus du tout là pour parler de rap, on est là pour parler confinement, pour parler survie, pour parler mort, pour parler de tout ça.
Je voyais le tweet aussi sur le hashtag Radio Ouverte de Lola qui nous disait plus sérieux que profiter de sa visibilité. C'est plus que sérieux, pardon. Il profite de sa visibilité auprès des jeunes pour sensibiliser. Je trouve ça très bien de sa part. Vous êtes salué par Lola en l'occurrence. Tiens, il y a cet autre moment de l'émission où, je le précise, vous êtes en ligne avec Bernard Squarcini. Alors, nos auditeurs le savent, s'en souviennent ou pas, c'est l'ancien patron du renseignement intérieur. Vous connaissiez avant avec Bernard Squarcini ?
Non, pas vraiment.
Pas du tout. Et alors, il y a cet échange très constructif, pour le coup, où l'ancien patron du renseignement vous explique à la fois le fonctionnement de l'État, pourquoi la décision publique est prise. Il y a cet échange comme ça qui peut paraître surréaliste entre celui qu'on appelle le Squal et celui qu'on appelle le Duc, mais c'est très naturel, finalement, dans cette émission.
Bon, on est deux hommes en période de crise. Il n'y a rien d'exceptionnel pour moi. On allie nos forces, on va dire, et on fait passer un message.
Le message, restez chez vous, toujours. Simplement, Bernard Squarcini, à la fin de l'interview, il vous a taquiné. Tiens, on a l'extrait sur Europe 1 ce matin.
Donc en résumé, aujourd'hui, restons chez nous, sauvons des vies, le confinement n'est pas fini. Merci Bernard.
Merci.
Ouais, courage à tout le monde.
Allez, vive la police. Hein.
Ouais, toujours, on passe.
Il est taquin, en l'occurrence. Bonjour Bernard Squarcini.
Bonjour.
Ah, on s'est dit qu'on allait faire une petite surprise dans cette interview. Bernard Squarcini et Booba sont en direct sur Europe 1. Bernard Squarcini, pardon, mais pourquoi avoir accepté cette interview ?
Parce que ce mélange irréel était dû à des circonstances de gestion d'une crise brutale et massive. C'est un mélange incertain et surprenant, bien sûr, mais aujourd'hui, derrière le rappeur rebelle qui défend ses territoires et son public, derrière Booba, il y avait plutôt Elie Yaffa, citoyen responsable, qui délivrait un message pédagogique, très peu scientifique bien sûr, simple, calme et direct. Donc c'est ce qui était tout à fait nouveau. Il a un public très important qui concerne des territoires, des endroits où la loi est peut-être moins appliquée qu'ailleurs, la loi sur le confinement et les nouveaux textes où la police doit intervenir en prenant des risques. Et donc j'ai trouvé que le complément nécessaire au message officiel était bien là.
Et ça a été un événement, il faut le souligner, pour les fans de Booba. Vous avez, Booba, publié un petit teasing de cette émission avant qu'elle n'existe publiquement. Ça s'est déchaîné sur les réseaux sociaux, tout le monde a cru que vous sortiez un album surprise.
Ouais. C'était pas du tout le cas.
C'était pas du tout le cas. Cela dit, vous avez du temps en ce moment confiné pour travailler, pour écrire.
J'ai tout le temps qu'il faut pour travailler, pour préparer plein de choses pour l'après-corona. Et ensemble, on va y arriver, on va survivre. Et si on respecte le confinement, on aura de meilleurs résultats et de meilleures chances.
Bernard Squarcini, on peut vous imaginer sur un album de Booba à l'avenir ?
Non, je ne pense pas. Non,
j'essaye de créer des featuring. Il y a des liens qui se créent.
En DJ.
En DJ, DJ Squarcini.
DJ Squarcini. DJ Squal.
Oui, s'il veut bien s'habiller en policier, premier intervenant dans la rue, je veux bien.
Chiche. Chiche ou pas chiche ? On le fait ou pas, ce clip avec Booba déguisé ? Je veux bien être là pour le tournage, moi, pour le coup, Booba déguisé. On en reparlera. Merci beaucoup, Bernard Squarcini, de ce clin d'œil ce matin sur Europe 1. Et puis merci d'avoir joué le jeu avec Booba aussi. Encore une fois, j'ai regardé, moi, deux fois cet épisode de 26 minutes. C'est à regarder, c'est utile. Simplement, vous allez avoir d'autres personnalités à l'avenir. Vous essayez d'avoir d'autres invités surprenants comme ça, Booba, pour les prochains épisodes ?
Ah, le but, c'est pas d'avoir de personnalité, mais de gens utiles et de gens qui font partie du combat. Donc, comme des infirmières, des médecins, peu importe. L'objectif, c'est d'être utile et de donner la parole aux gens concernés, compétents et qui peuvent nous aider dans cette crise.
Et de relayer cette parole, finalement. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il faut remercier Booba ou Elie Yaffa après ce qu'a dit Bernard Squarcini.
Les deux.
Peut-être une prochaine carrière. Peut-être
Booba pour son following.
Et puis, si vous voulez faire un peu de radio et présenter une émission, n'hésitez pas à passer par le studio d'Europe 1 quand nous ne serons plus confinés et que vous pourrez quitter Miami. Merci beaucoup, Booba.
Merci tout le monde.
On peut suivre Booba, évidemment, sur ses réseaux sociaux. Les fans le savent, Instagram et Twitter, où l'on vous voit pendant ce confinement. confinement. En papa aussi, tiens, je tiens à le préciser, en papa confiné avec ses enfants. Merci d'avoir joué le jeu sur Europe 1 ce matin.
Merci à vous.
La parole de Booba, relayée aussi, qui relaye les gens du terrain, si j'ose dire, qui s'engagent contre le coronavirus. Je voulais en parler ce matin. Le rôle de l'artiste. Merci aussi à Pierre qui nous a appelé au 39-21 et à Bernard Squarcini pour ce petit clin d'œil. 9h27, vous êtes sur Europe 1. On quitte Booba et Miami. Et on va retrouver Philippe Bandel pour Culture Média de 9h30 à 11h dans un instant.
Bonjour Mathieu. Philippe. Je vais vous raconter de quoi on va parler avec le confinement. On peut plus se voir en vrai, mais jamais on s'est autant parlé par médias et par mes réseaux sociaux interposés. Facebook et Instagram ont lancé toutes sortes d'initiatives et avec eux on va faire un tour d'horizon sans sortir évidemment de notre chambre. Jérôme Anthony ensuite, le couteau suisse de M6 et de W9, il présente deux émissions et un album de swing, vous entendrez ça. Et puis Ben, il ne veut plus qu'on l'appelle l'oncle Soul, Ben tout court, qui sort un album absolument magnifique, c'est son quatrième, ça s'appelle Addicted to You et il y a un duo avec IAM qu'on vous fera entendre, vraiment de la balle bébé comme on dit.
Merci beaucoup Philippe Bandel, Culture Média de 9h30 à 11h, c'est sur Europe 1. Je vous rappelle évidemment l'engagement de la rédaction d'Europe 1 face au coronavirus. Là aussi, nous aussi, pas d'invités en studio, pas de journalistes. Nous sommes tous en télétravail et ça continue. La France bouge à midi, le grand journal du soir, Nathalie Lévy bien sûr. Moi, je vais vous retrouver demain matin à 6h, précisément à 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.